Fabien Marceau, dit Grand Corps Malade, est l'un de ces artistes qui ont donné au slam ses lettres de noblesse. Avec Midi 20, son premier album, écoulé à près de 600 000 exemplaires, couronné par deux victoires de la musique en 2007, son nouvel album, Enfant de la ville, sorti en mars 2008, est un réjouissant mélange d'histoires vécues et de réflexions sur le monde. Le slam qui donne son titre à l'album débute comme un hymne écologique aux grands espaces, au silence, à la nature. Un leurre, selon l'artiste, qui rend hommage dans Enfant de la ville, au bitume, à la ville, à la foule. Sincère, ce poète des temps modernes, c'est nous donner le sourire, nous émouvoir et nous toucher. Grand Corps Malade, au micro de Benoît Adam.
Bonsoir à tous. On est en pleine tournée, d'ailleurs, c'est plutôt la fin de la tournée, et on est pas mal passé dans votre région. À chaque fois, on a eu un très très bel accueil, mais c'est notre toute première fois à Villefranche. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est un beau théâtre, la salle est bien pleine, il y a du monde en bas, il y a du monde là-haut. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde, et c'est, quand je repense au tout début du slam, il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde. Et j'aime bien me remémorer les tout débuts, notamment pour moi, une certaine soirée, c'était en 2003.
C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre. 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam fatigué, trottoir en pente, rue des Dames, très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam.
Et les premiers textes, alors ils sont venus comment ?
En fait, j'avais déjà un petit peu écrit, mais c'était vraiment pour moi, c'est des textes qui n'avaient pas bougé de mon tiroir, comme beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui écrivent alors qu'ils ne le disent pas trop autour d'eux. Et bien là, j'ai vu qu'il y a des gens très différents, sans prétention, sans enjeu particulier, qui osaient slammer. Alors je me suis dit, bah, moi aussi, je vais oser. Donc c'est venu directement la nuit, le soir même, dans la nuit de ma première soirée slam. Je suis rentré chez moi, j'ai écrit un texte pour aller le faire. Dans ce lieu-là, quoi.
Et les souvenirs de cette première scène, de cette première fois ?
C'est, voilà, la bonne petite pression, la petite boule au ventre, le trac, puis voilà, et ben, ça s'est bien passé, hein, sinon je ne serais pas revenu, donc voilà, j'ai eu un bon accueil du public, et je me suis dit, j'étais pas prêt d'arrêter ce truc-là, quoi.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train, et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe ? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare ? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Y'a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et y'a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Y'a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral, car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus.
J'observe ce qui se passe autour de moi, je peux parler de mes potes, de ma ville, d'amour, de mes galères du passé. C'est infini comme source d'inspiration.
Et dans votre dernier album, Enfant de la ville, comment on pourrait définir le fil conducteur dans les thèmes qui sont abordés ?
C'est difficile, il y a des thèmes très variés. Je ne sais pas si on peut trouver un fil conducteur. Alors, le fil conducteur, c'est peut-être moi, ma vision des choses et ma vision de quel que soit le thème. Peut-être qu'on retrouve quelques données, peut-être un côté positif. Il se dégage, quel que soit le thème, j'espère, de pas mal d'espoir. Mais après, sinon, moi, quand j'écris selon l'inspiration du jour. Donc, un jour où je vais écrire un texte grave, un peu dur, un jour où je vais écrire une connerie, un texte léger. Donc, du coup, après, quand c'est sur l'album, c'est un album qui est varié au niveau des atmosphères, au niveau des thèmes, au niveau des ambiances.
En écoutant votre album, j'ai eu cette impression que c'était un album qui parlait de transition dans la vie d'un homme, avec un retour un peu sur le passé, sur ce qu'on a fait, son enfance, son adolescence, les amis, le lieu où on a vécu, là d'où on vient. Et puis après, il y a les textes sur l'engagement, ce texte d'amour, comme finalement un homme qui disait, là maintenant il faut que j'y aille, il faut que je m'y mette, et puis la question de qu'est-ce qu'on va transmettre après, notamment avec ce beau texte de ce prof qui a un vrai coup de blues.
C'est super intéressant. Moi je ne l'ai pas vu comme ça, mais souvent c'est les personnes extérieures qui peuvent peut-être trouver un fil conducteur, et c'est vrai que ça peut être vu comme un moment de transition. C'est vrai que cet album, en tout cas, il correspond à un moment donné de ma vie. Donc c'est vrai que sur ce moment-là, je parle un peu de mon enfance. Il y a pas mal de nostalgie sur cet album. J'aime bien parler de... C'est pas une nostalgie qui plombe le moral, mais c'est une nostalgie qui plutôt constructive, où tu te dis, j'ai eu la chance de vivre ça, ça et ça. Et du coup, il faut avoir conscience de cette chance-là. Donc j'en parle avec nostalgie, mais ça m'empêche pas d'avancer. Et puis c'est vrai que je parle aussi un peu d'avenir, un peu de ce qui nous entoure. Donc c'est intéressant, cette façon de voir cette transition.
Qu'est-ce qui déclenche vos besoins d'écrire ?
C'est au feeling. Il n'y a pas un truc. Il y a plein. Ça peut être un thème d'un seul coup qui me traverse l'esprit. Ça peut être un jeu de mots. Tu vois, père et mère. Ce texte, c'est parti d'un ou deux jeux de mots que j'avais dans la tête. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de développer tous ces jeux de mots-là possibles. Ça dépend d'une atmosphère ou d'un truc que je vois dans la rue ou à la télé. Il y a plein de déclencheurs possibles.
Quand vous êtes lancé dans un texte, comment vous le vivez, ce processus de création ?
Souvent, je le mûris pas mal avant de passer. Enfin, pas mal. Ça dépend aussi. Des fois, je vais à ma feuille tout de suite. Des fois je peux me mûrir pendant un ou deux jours, j'y pense de temps en temps, et par contre quand je me mets à ma feuille, après ça va assez vite. C'est à dire que je mets pas une semaine à faire un texte, j'écris pendant 2-3 heures et peut-être le lendemain encore une heure pour fignoler, mais en gros en deux jours grand maximum le texte il est plié.
On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les cinq sens. Un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution. Verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vanne. Un DEA de Chambray, tu ne répartis jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien. Appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans. On a l'insulte facile, mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées, ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation te fait des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route, et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière, un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent un paquet de sales gamins trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journaliste. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange.
Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas, mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur Terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux.
Aujourd'hui, quelle valeur vous semble importante à défendre et à transmettre aux générations futures ?
Bah forcément, c'est des valeurs que j'essaye de défendre, pas seulement dans mes textes, mais dans mon attitude, dans mes relations avec les gens au quotidien. Bah, c'est des valeurs de partage, de solidarité, d'amitié, d'humanité, tout simplement. J'essaye d'être quelqu'un d'humain, d'être quelqu'un de gentil. Tu vois, le mot gentil, il peut paraître super ringard ou désuet, mais non. La vraie gentillesse, celle qui essaye de transmettre un peu de bonheur autour de soi. Bah, voilà, j'essaye vraiment juste humblement à mon petit niveau de le transmettre autour de moi. Alors si ces valeurs-là transparaissent un peu dans les textes, tant mieux. Mais après, je me garde toujours de vouloir vraiment absolument passer des grands messages. Voilà, je me méfie de ça. Est-ce que je suis légitime pour parce que sous prétexte que je sais que mon texte va être entendu par des milliers de gens, je ferai pas un album, le prochain album, en me disant bon maintenant ça va être un album à message. Il faut que je sais que maintenant j'ai beaucoup de public. Il faut absolument que je passe un truc. Non, je me forcerai pas. Je continuerai d'écrire au feeling. Alors quand le feeling me dit d'écrire un texte sur l'école parce que je trouve que l'école en France va mal, eh ben je le ferai. Mais tu vois, je le ferai pas en me disant il faut maintenant t'engager plus. Non, je continuerai d'écrire à ma façon, au feeling, selon l'humeur du jour. Et après, s'il y a des choses qui se dégagent et des messages, tant mieux.
Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école, elle est mignonne, même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle, il y a plein de bruit. Moi, dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi, en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère, c'est 16 heures, je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant, ma maîtresse, je l'aime bien. Elle peut être dure, mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein de projets et plein d'idées pour les sorties. Mais on n'a que 2 quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On n'a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on n'a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. Les classes sont surchargées, pas comme la paye des profs minée. Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire, faut rajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève. Dans les quartiers les plus en galère, créer des classes de 15 élèves. Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à 2 balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants ? L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il n'y a pas d'éducation nationale, il n'y a que des moyens de survie locaux. Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention, la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère. Et l'égalité des chances, un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 à Épinay. Ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac. C'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
Je me dis pas, tiens, il faut que dans ce texte-là, ce soit cette valeur qui se dégage. Après, si c'est le cas, tant mieux, mais j'essaye de faire ça de manière un peu subtile, en me cachant derrière un professeur qui a un coup de blues pour passer 2-3 messages comme ça, quoi.
Allez entrer, les enfants, et arrêtez de vous chamailler. Avancez dans le calme, je sais que vous en êtes capables. Asseyez-vous tranquillement, chacun sa place, ça y est. Écoutez-moi, mais ce matin, n'ouvrez pas vos cartables. On va pas faire de grammaire, de géométrie et de conjugaison. On parlera pas de complément d'objet et encore moins de Pythagore. Ce matin, pas de contrôle et personne n'aura raison. Aujourd'hui, aucune note et personne n'aura tort. Les enfants, écoutez-moi, je crois que je ne vais pas bien. J'ai mal quand je vois le monde et les hommes me font peur. Les enfants, expliquez-moi, moi je ne comprends plus rien. Pourquoi tant d'injustice, de souffrance et de malheur? Hier soir, une fois de trop, j'ai allumé la télévision. Sur les coups de 20h, c'était les informations. Et tout à coup, dans la pièce, s'est produit comme une invasion. De pleurs et de douleurs, c'était pire qu'une agression. Hier soir, l'actualité comptait beaucoup plus de morts que de cheveux sur le crâne de Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est comme ça tous les jours, un peu partout sur Terre. Je crois qu'il fait pas bon vivre au troisième millénaire.
Voilà, je sais pas quelle valeur je transmets ou quoi, ou je dégage. En tout cas, je pense que la sincérité, voilà, je vous l'accorde. Je veux bien endosser ce mot-là. Voilà, c'est le slam, à la base, en plus, c'est vraiment l'école de la sincérité, quoi. T'es dans un petit bar avec 40 personnes autour de toi, t'as pas de musique, t'as pas de décor, t'as pas de costume, t'as que le mot à nu. Donc si t'es pas un minimum sincère, ça se voit. Et voilà, c'est vrai qu'à la base, si j'écris, c'est vraiment avec les tripes, ce que j'ai vraiment dans le bide. Donc voilà, en tout cas, la sincérité, je pense qu'elle est là. Tant mieux si ça se ressent.
Quel message vous pourriez donner à des personnes qui écrivent leurs textes, qui les laissent dans des tiroirs et qui se disent « ça va intéresser personne » ou « moi, je sais pas dire de la poésie, je sais pas chanter ». Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les encourager peut-être à essayer de faire quelque chose autour du slam ?
C'est tout simple, c'est aller dans les scènes slam. C'est-à-dire, n'y aller, mettez peut-être un de vos textes dans la poche en vous disant peut-être je ne le sortirai pas, mais allez voir. Et dans ces scènes soirées slam, il y en a maintenant partout, donc c'est la chance qu'on a. Le slam s'est vraiment développé. Allez juste jeter un œil et vous allez voir la convivialité qu'il y a dans ces scènes-là, l'écoute, l'atmosphère qui met en confiance, des gens très différents. Et là, ton petit texte que tu as mis dans ta poche, je suis sûr que tu vas te dire « Allez, je peux me lancer, je peux me jeter à l'eau. » Et une fois que tu te jettes à l'eau, souvent, t'es pas prêt d'arrêter, quoi.
Encore malade, merci et bonne continuation.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Il y avait plein de gens qui m'écoutaient, j'ai vu des oreilles plein leurs yeux, un tas de cœurs bien intentionnés, il y avait des jeunes et puis des vieux. Ils étaient là, ils m'attendaient même à l'autre bout de la France. Ils m'ont offert un bout d'histoire où j'ai marché du côté chance.
Entretien de Grand Corps Malade, réalisé au Théâtre de Villefranche par Benoît Adam. Dernier album de Grand Corps Malade, Enfant de la Ville.